Le climat dans la Sainte Famille, c'était plutôt détendu quand même. 3 jours pour s'apercevoir que Jésus n'était pas avec eux quand on fait un voyage de Jérusalem à Nazareth avec un enfant de 12 ans. Ce serait passé comme ça dans votre famille ? Alors ça donnerait lieu à des belles méditations, parce que c'est pas simplement que Joseph et Marie sont très détendus, c'est on voit aussi toute la profondeur de la confiance qu'ils ont dans le reste de la famille. Les cousins, tout ça, etc., ils devaient être avec eux. Et aussi la confiance qu'ils ont en Jésus. Il a 12 ans, il est grand, il sait ce qu'il a à faire, on n'est pas obligé d'être derrière lui. Bon, ça laisse la place à quelques surprises. Vous voyez, cette fête de la Sainte Famille, frères et sœurs, elle est à la fois très belle, mais il ne faut pas non plus présenter un tableau trop idyllique de cette famille humaine. Si le Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver l'humanité, et tout ce qu'il a assumé, il est venu le sauver. Et donc, il est venu sauver la famille aussi. En un mot, vous avez toute l'homélie. Nos familles ont besoin d'être sauvées. Et vous avez peut-être vécu des fêtes en famille, et donc vous avez tous les exemples qu'il vous faut en tête pour dire oui, notre famille a besoin d'être sauvée. La famille est le plus beau cadeau peut-être que Dieu ait fait à l'homme, ce climat, ce petit terreau dans lequel nous apprenons à nous aimer, et on voit que c'est un lieu de blessures profondes également. La famille, c'est le lieu de l'apprentissage de l'amour. Et moi, ce que je dis la plupart du temps à des couples que je prépare au mariage, je dis, vous aimez, écoutez, c'est très bien, tant mieux pour vous. Moi, je vous dis que si vous vous mariez, c'est pour que vous appreniez à vous aimer. Et il va falloir toute votre vie pour que vous appreniez à vous aimer. La famille, c'est une école. C'est une école de la charité, du soin les uns des autres, pour mettre en œuvre cette première parole du Christ, ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et aimer, ça ne veut pas forcément vouloir dire avoir des grands sentiments, avoir des grands moments de plaisir avec l'autre. On peut en avoir, tant mieux, j'espère, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est peut-être un piège de ma génération, peut-être ceux juste avant, ceux en dessous en tout cas c'est sûr, ou en voulant fuir tout ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie et en cherchant une apparente authenticité, on s'est complètement enlisé dans une vie qui est épidermique. On vit à la surface de nous-mêmes, sur la sensation, et jusqu'à ce que des personnes parfois puissent nous dire « Mais il faut que je le quitte, parce que de toute façon je ne ressens plus rien pour lui. » Quelle pauvreté de l'amour. On confond l'amour de l'autre dans le don de soi qui mène à la vraie joie, et l'amour de soi qui dévore l'autre jusqu'à ce qu'on n'en ait plus l'utilité et qui conduit à la solitude. Quand nous aimons quelqu'un, il y a quelque chose un peu de notre volonté, nous décidons de prendre soin de l'autre. Et ce n'est pas si facile, c'est pas si facile. Vous voyez, très rapidement dans nos textes aujourd'hui, on a l'exemple de Elkana avec la maman, j'ai mangé son nom, de Samuel, Anne, merci, Anne, la maman de Samuel. C'est un beau couple, hein. Elkana est très fidèle, il aime beaucoup sa femme, ce n'était pas dans notre passage aujourd'hui, mais c'était le passage d'avant. Il cherchait à la consoler, elle qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et lui était à côté, mais l'amour que j'ai pour toi ne te suffit-il pas? Il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Il est très fidèle, il monte tous les ans à Jérusalem pour aller au temple. Mais on voit que c'est une famille qui est marquée par la souffrance, parce que absence d'enfants, parce que les difficultés, petite jalousie parfois, surtout quand il y avait plusieurs femmes à l'époque. Nous sommes faits pour avoir un cœur qui aimait de manière unique et pas en groupe. Voilà, la Sainte Famille elle-même, avec des moments d'incompréhension et de tension, Marie face à Jésus, qui n'a pas suivi ce qu'elle pensait qu'il devait faire. Eh bien, il y a une incompréhension de Marie, il y a une vraie souffrance probablement à ce moment-là. Elle ne sait pas forcément qu'est-ce qu'elle doit faire à l'avance avec son fils. Et parfois, on a des images de la Sainte Vierge comme quelqu'un de tout-puissant qui peut tout faire, qui sait tout, qui est... Non, elle s'est posée des questions, elle a tâtonné, elle a cherché. Et là, elle ne sait pas forcément comment réagir avec son fils. D'où cette petite parole qu'elle a. Que nous as-tu fait là? Et a priori, Jésus avait entre autres un peu raison de rester là. Ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que la réponse de Marie était la bonne ou pas? En tout cas, elle a répondu avec tout ce qu'elle pouvait dans son humanité. Elle n'a péché en rien et Jésus la suit. Il se laisse déplacer par sa maman, Jésus aussi, se laisse prendre dans cette famille avec ses limites. Être saint ne veut pas dire ne pas avoir de limites ou de difficultés. Alors bien sûr, cette famille-là, elle est quand même assez extraordinaire. Des exemples de famille, on en a d'autres dans la Bible, je ne vais pas les donner. Peu importe, nous avons déjà les nôtres pour nous éclairer. Nos familles sont des vraies familles. Même lorsqu'elles sont blessées, déchirées, éclatées, mais aussi dans ce qu'elles ont de beau, dans leur capacité à se réconcilier, à s'aimer, à se pardonner, à se retrouver, à partager. Et il y a parfois des moments très importants, vous voyez, quand on décide d'être avec l'autre jusqu'au bout, cela peut permettre de donner la vie à d'autres personnes. Je vous donne un tout petit témoignage pour que nous comprenions un petit peu ce que peut vouloir dire aimer et pourquoi Dieu a pu nous donner la famille. Alors je pense à une personne dans une famille en fin de vie, une grand-mère en fin de vie, pour laquelle justement, en fin de vie, c'était un peu complexe parce que le caractère était compliqué. Et c'est un caractère tellement compliqué qu'on pourrait dire que si ce n'était pas un lien de famille, la famille serait partie. S'il n'y avait pas le fait que c'était la grand-mère et donc il fallait être là, on ne serait pas resté amis avec quelqu'un comme ça. Mais par fidélité, parce que c'est la famille, parce que nous avons ce commandement, honore ton père et ta mère, et qu'elle-même a réellement donné toute sa vie pour ses enfants aussi, il est juste, il est bon que nous apprenions à aimer en retour. Les enfants sont restés fidèles dans la pauvreté, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et jusqu'à ce que cette femme, 3 jours avant sa mort, fasse l'expérience de Dieu et vive une conversion radicale. Simplement parce qu'elle a pu vivre jusque-là, qu'elle n'a pas été abandonnée. Nos familles, frères et sœurs, c'est très simple. Dieu nous les a données pour que nous nous aimions les uns les autres, pour que nous puissions, en nous aimant les uns les autres, donner la possibilité à l'autre de vivre, de recevoir Dieu et de se convertir. Nous ne sommes pas là pour sauver notre conjoint, ni notre fils, ni notre mère. Nous sommes là pour l'aimer et que Dieu puisse le sauver. L'aimer sans naïveté, parfois dans la limite de ce que nous pouvons, parfois en nous protégeant aussi avec une vraie lucidité. Mais c'est le lieu de l'école de l'amour. Si nous regardons nos textes aujourd'hui, je vous propose de regarder 2 petites attitudes qui sont éclairées par ces lectures sur nos familles. Premièrement, c'est de bien comprendre que dans notre famille, l'autre, le conjoint, l'enfant, peu importe qui vous voulez, ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. À aucun moment je peux contrôler la vie de l'autre, et ça, nous le voyons de manière très belle quand justement Anne va présenter Samuel au temple. Ça peut nous choquer, hein, mais c'est une autre tradition, autre époque. Vous voyez, c'est son unique, elle l'a attendu toute sa vie. On pourrait dire que ça y est, c'est la réalisation de comme maman pour elle, enfin. Elle a ce beau réflexe, parce qu'elle l'a promis, elle le consacre au Seigneur lorsqu'il est sevré. Elle lui dit, c'est ton enfant. Notre conjoint, notre frère, notre sœur, notre parent, notre enfant est d'abord l'enfant de Dieu et il appartient à Dieu. Il nous est confié pour un temps, pour que nous l'aimions. Mais nous n'en sommes jamais le maître, nous ne pouvons jamais le contrôler, nous n'avons pas à le faire. Et en fait, c'est merveilleux, parce que c'est ce qui permet d'être aimé en retour. Quand je cherche à contrôler quelqu'un, je n'ai pas de l'amour en retour, j'ai le fruit de ma manipulation. Ce n'est pas pareil. Si je laisse l'autre profondément libre, je peux avoir mal, parfois, par le manque d'amour en retour, mais je peux aussi avoir la joie de goûter les quelques instants d'amour véritable que l'autre peut me donner. Le Seigneur reste Dieu, toute personne m'est confiée par lui pour elle-même. Je serai à ma place si, dans ma relation, je suis un signe de l'amour de Dieu pour mon frère, ma sœur, mon enfant, mon père. Rien de plus. Je suis là pour l'aimer. Et c'est pour ça que l'Église nous dit que la famille est une petite Église. Vous voyez, l'ecclésiole, c'est un premier lieu où nous sommes les uns les autres, le visage pauvre, mais de l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Je t'aime parce que tu es mon frère et ma sœur, et c'est tout. Quoi que tu fasses, je t'aimerai. Je t'aimerai comme je peux, différemment à chaque fois, mais je t'aimerai. Deuxième petit aspect, et dernier, que je voudrais souligner, et c'est peut-être la clé de voûte un petit peu de ce qu'on peut contempler, c'est la place de Dieu dans nos familles. Voyez, Jésus, à 12 ans, alors le texte ne nous le dit pas, mais 12 ans, c'est le moment où le juif fait un passage à l'âge adulte, la bar mitzvah. Il devient non plus fils de son père, mais bar, c'est fils, mitzvah, les mitzvot, c'est les commandements, c'est la loi, fils de la loi, autrement dit de Dieu. C'est une manière justement de rappeler ce passage. Oui, j'ai un père et une mère sur terre, mais j'ai aussi un père au ciel. Et je lui suis redevable. Et donc il est normal, puisque j'ai un père au ciel, et bien que j'aille le voir. Vous allez voir vos parents de temps en temps sur terre. Et bien, est-ce que nous prenons du temps pour voir notre Père céleste? Et là, j'entends la prière, frères et sœurs, très simplement. Et pas juste une petite prière, un temps de qualité avec notre famille du ciel, un temps d'oraison, un temps d'oraison. C'est un devoir de voir nos parents. C'est un devoir de passer un peu de temps avec Dieu. C'est un peu compliqué, cette question de l'oraison. On a souvent beaucoup d'excuses pour vouloir un peu la pousser. Quand on est un peu productiviste, actif, on peut se dire que c'est une perte de temps. Mais il est urgent que nous apprenions à perdre du temps, et en particulier avec Dieu. Parce que tout ce que nous lui donnons, en réalité, nous est plus profitable que le reste. Un jour ou l'autre, tout ce qui est ici, ce sera fini, hein, quoi qu'on veuille. Et si Dieu a voulu cette famille, c'est parce que nous sommes appelés à entrer dans la famille de Dieu. Fin de la deuxième lecture, il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit Saint. Je suis devenu enfant de Dieu. Si je n'apprends pas à entrer dans cette famille, au ciel, je vais faire comment? Je ne peux pas ne pas passer du temps avec Dieu en oraison. Et ce n'est pas du temps volé aux autres non plus, y compris à notre famille. Parce qu'en réalité, c'est le lieu où je peux laisser Dieu me sauver et où je vais pouvoir enfin aimer ma famille. Si nous essayons, à la force de nos poignets, d'être de bons chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut faire de nous de vrais chrétiens. Et donc, des personnes signes de son amour au milieu de notre famille et de ce monde. Oui, les sacrements, l'Eucharistie, le baptême, la confession sont des signes efficaces de la grâce de Dieu. Ils sont là, mais ils ne déploient leur fécondité que s'ils tombent dans la bonne terre. Et la bonne terre, elle se cultive. Et ça, frères et sœurs, c'est l'oraison. Tous les saints sont unanimes. Il n'y a pas d'autre chemin au ciel que l'oraison. Si nous ne prenons pas du temps en silence pour Dieu, la grâce risque d'être stérile. Elle nous est donnée. Elle ne portera pas de fruits, ou très peu, très peu. Ce n'est pas du temps volé aux autres, au contraire, c'est un vrai cadeau, bien sûr, toute proportion gardée. Mais je ne vais pas faire un cours sur l'oraison maintenant, mais que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette oraison. Ça veut simplement et d'abord dire donner du temps à Dieu. Je donne 10 minutes, un quart d'heure, et je suis là pour toi. Je ne cherche pas à comprendre quelque chose. Je ne cherche pas à résoudre un problème. Je ne cherche pas à transformer le monde. Je cherche à être avec toi. Avec toi. Et peu importe si peut-être que je viens trop fatigué, que je m'endors avec toi et je suis là pour toi. Je me suis mis devant mon coin prière, je n'ai pas tenu l'éveil, mais je suis resté. Voilà. Quand on est en famille et qu'on est débordé, peut-être avec des enfants, c'est très compliqué. Voilà. Je viens quand même devant Dieu, quitte à ce que mon enfant joue et m'empêche complètement de penser concrètement à Dieu, mais je suis là, j'ai donné ce temps-là, je ne fais pas autre chose. Même si j'ai un enfant qui pleure dans les bras, il fait son travail, il pleure, c'est un bébé, quoi. Mais je peux donner un peu de temps à Dieu, tel que je suis, avec ce que je suis, sans chercher à faire des grandes choses. Dans la pauvreté apparente de cette relation à Dieu, je lui dis simplement, Seigneur, tu peux venir me sauver. Et il ne suffit pas de dire, j'y pense toute la journée, Dieu, je prie toute la journée, ça c'est un peu une excuse facile. Vous voyez, quand on dit en général, j'y pense toute la journée, c'est que c'est l'introduction d'une suite de phrases qui se termine par, et je ne l'ai pas fait. Je vous donne un exemple. Chérie, tu as pensé à descendre les poubelles? Oh, j'y ai pensé toute la journée. Et tu ne l'as pas fait. T'as pensé à prier ? J'ai pensé à Dieu toute la journée. Et tu ne l'as pas fait. Prendre un temps consacré à Dieu, parce que nous sommes consacrés à Dieu, parce que notre famille éternelle sera là-haut aussi, est absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas ne pas en prendre. Positivement, nous devons prendre ce temps-là. C'est un temps où nous laissons Dieu nous sauver. C'est un temps de qualité que nous offrons à Dieu, l'offrande de nous-mêmes, toute simple, où il se passe parfois pas grand-chose. Après, nous pouvons progresser lorsque nous le pouvons et que nous avons les capacités, mais d'abord simplement dans l'offrande de notre temps à Dieu, de quelques dizaines de minutes, régulièrement, et petit temps, chaque jour, pour que Dieu vienne nous sauver et sauver nos familles. Dieu est venu sur terre pour nous sauver, il a voulu être membre d'une famille pour sauver nos familles. Laissons-le entrer dans nos familles, consacrons-lui ces instants, qu'il vienne faire toutes choses nouvelles, y compris dans ce lieu magnifique. Amen.